Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
On n'est pas forcément d'accord.
C'est notre débat, on n'est pas forcément d'accord aujourd'hui avec Nicolas Domenac et François Langlais. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Alain, notre vous en l'occurrence. François, on revient bien entendu à la conjoncture économique. Alors c'était la condition sine qua non de sa candidature. Je parle bien entendu de François Hollande avec ses chiffres bons qui ont été annoncés en milieu de semaine. Est-ce qu'il a tenu son pari, Nicolas Domenac?
Est-ce qu'il a tenu son pari? Si je vous disais oui, de toute façon, vous ne me croiriez pas, parce que nous sommes dans une période absolument dingue, et je voudrais faire cette première réflexion.
Si c'est ce que vous pensez, dites-le nous.
Oui, parce que ça vous a pas interpellé le chiffre de 4% seulement des Français qui trouvent que, au fond, son action a été satisfaisante. C'est-à-dire que, au fond, rien ne lui est porté à crédit. Il est devenu le bouc émissaire de tout ce qui ne va pas, et même quand ça va, ça ne va pas. Donc, à la limite, si le chômage vraiment reculait massivement, même ça on ne le croirait pas, même ça on dirait c'est faux.
Vous pensez qu'il y a 96% d'hallucinés ?
Non, je pense qu'il s'est produit un phénomène dans lequel il a sa part de responsabilité qui fait que le président de la République n'est plus président Jupiter, c'est une forme de président paratonnerre sur lequel s'abattent tous les mécontentements, toutes les fractures, toutes les colères, toutes les rages, même si ça va mal avec votre femme, etc. C'est la faute de Hollande, etc. Nous sommes plus dans la rationalité, il y a un climat psychopathologique terrible, et encore une fois, Hollande, il y a beaucoup de sa responsabilité. Cela étant, j'en finis là-dessus. Je vous rappellerai que les résultats de Lionel Jospin et François Langlais, c'est ça beaucoup mieux que moi, étaient très très bons et que ça ne l'a pas empêché d'être battu.
François Langlais, alors, est-ce qu'il a inversé notre courbe ?
Oui, incontestablement.
Est-ce que c'est rationnel, d'évaluer tout ça comme ça ?
Je partage le sentiment de Nicolas. Je pense que c'est en partie lié à lui. Ça n'était qu'une partie du sentiment de Nicolas, mais c'est celle-là sur laquelle je m'appuie. Et je l'explique de deux façons. D'abord parce que le diagnostic qu'il porte sur le pays lorsqu'il arrive au pouvoir est erroné. C'est-à-dire qu'il pense, à l'époque, qu'il suffit de chasser Sarkozy et d'un petit peu de temps pour que mécaniquement la croissance se retourne.
D'attendre les cycles sans rien faire.
Exactement, en vertu du cycle. Autrement dit, sa philosophie économique à l'époque, c'est « puisque ça a été mal, ça ira bien ». Ça n'est pas du tout ce qui s'est passé.
On appelle ça une philosophie, on appelle ça au minimum de l'opportunisme.
Oui, c'était un mot délibérément inapproprié. Mais et la conséquence de cela, c'est que finalement, au fil des années, en 2013, en 2014, il s'accroche à ça. Et il nous dit, tous les 6 mois, la reprise est là, alors qu'elle n'est pas là. C'est l'effet Pierre et le loup. Si vous voulez, Pierre avertit sur le loup alors que le loup n'est pas là, et personne ne le croit, sauf au moment où le loup arrive. Et là, on est un petit peu dans la même situation. De fait, ça va mieux, si ce n'est que comme il nous a dit,
François Langlais. Attention, parce que tout à l'heure, vous nous avez dit médiocre. D'ailleurs, si je voulais chicaner, François Langlais, j'ai trouvé le mot un peu fort quand même. Vous auriez pu dire légère, moyenne, etc. Mais médiocre, c'était un jugement de valeur assez rude de la part d'un esprit comme le vôtre, qui ne l'est pas médiocre. Ça m'a étonné.
Non, 0,2, honnêtement, c'est un chiffre médiocre. Non, ce qui n'empêche pas que ça va mieux qu'avant, parce qu'avant, c'était zéro.
Donc, voilà.
Non, mais si vous voulez, tout dépend du point auquel on se compare, évidemment. Et nous grimpons les marches très lentement. Je dois dire, et je l'ai dit aussi tout à l'heure, que cette fois-ci, c'est malheureusement une médiocrité qui dépasse les frontières de la France, c'est-à-dire que c'est celle de la zone euro, au moins des grands pays de la zone euro qui sont à peu près dans le même état.
Un oui, un non, avant de redonner la parole à Nicolas Domenac, à la fin de l'année, le chômage aura reculé.
La fin de l'année, vous voulez dire 2016 ou la fin
non,
de l'année
en cours.
Écoutez, c'est assez probable. C'est assez probable, pas dans des mesures très significatives, mais néanmoins, il me semble que c'est assez probable. Aujourd'hui, à cette date, avec les derniers chiffres, il y a 60 000 chômeurs de moins qu'une année auparavant. On imagine mal que cet acquis soit perdu dans les 4 mois qui viennent.
Alors, quelle conclusion en tirez-vous du coup, Nicolas Domenac ?
Non, j'en tire une conclusion que je ne pars pas des mêmes présupposés que François Langlais, même si je reconnais qu'il a raison. Il y a une erreur d'analyse fondamentale économique de François Hollande au départ, mais moi je pense que c'était ce qui était plus grave, c'est l'erreur politique. Autrement dit, c'était d'avoir supprimé la défiscalisation des heures supplémentaires, parce que là, il a démoralisé une bonne partie des Français qui travaillent et que c'est ceux-là qui produisent des richesses aussi, et que c'est dans ce sens-là que ils payent aujourd'hui un ressenti qui n'est plus du ressenti, qui est du ressentiment et qui paralyse beaucoup de la croissance. Je suis bien d'accord que ce ne sont pas les seul mécanisme, vous êtes plus avisé pour moi pour savoir quels sont les autres ressorts, mais que nous sommes dans une France qui aujourd'hui a pas envie de décoller tout ensemble, mais en en même temps, et c'est là où je voudrais aussi vous entendre, pardon de prolonger, mais quand je vois le jugement des Français sur les programmes économiques et que sur chacune des mesures importantes, sur la suppression des fonctionnaires, sur les 39 heures, sur l'ISF, la suppression de l'ISF, ils disent « on n'en veut pas ». On n'en veut pas. Alors, je veux dire, est-ce que la croissance sera tellement mieux avec eux ? Je ne suis pas sûr du tout.
Non, les Français attendent des responsables politiques qui prennent des décisions qui sont désagréables ou même auxquelles ils sont hostiles, mais dont ils pensent au bout du compte que c'est, elles sont peut-être nécessaires. Enfin, j'en sais rien. Moi, je fais de la politique fiction là.
Les gens sont toujours très ambigus. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand ils raisonnent in abstracto, effectivement, ils peuvent accepter un programme de rigueur ou des sacrifices. Puis dès qu'ils comprennent que ça peut les toucher eux-mêmes, ils changent d'avis. On voit ça systématiquement. On l'a vu aussi à propos de la loi El Khomri.
Vous vous rendez compte, vous êtes en train de dire à nos auditeurs, finalement, vous n'êtes pas raisonnable.
Mais on est tous comme ça, mets dedans. On est tous, c'est la psychologie humaine. Et évidemment, l'art du politique, c'est de réconcilier les deux, et puis d'emmener les électeurs un petit peu plus loin que le court terme. Et généralement, on gagne comme ça. Non, je reviens sur ce que disait Nicolas et l'action initiale. C'est vrai que je partage ce sentiment-là. À diagnostic erroné, première année erronée. C'est-à-dire le choc fiscal, avec notamment la mesure qui a coûté le plus au plan politique, qui est bien sûr la défiscalisation, la refiscalisation des heures supplémentaires. J'observe d'ailleurs que c'est une autre des ressemblances entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. C'est que l'un et l'autre font un diagnostic erroné, à peu près le même, et l'un et l'autre prennent des mesures qui ne sont pas adaptées du tout dans la première année, et l'un et l'autre vont subir le coût politique de tout cela pendant toute la durée de leur quinquennat. Nicolas Sarkozy, c'était les mesures TEPA, où on a littéralement jeté les milliards à la rivière, hein, et notamment un crédit d'impôt sur les immobilier qui n'avait aucune justification. Et c'est vrai que l'effet de traîne est perceptible encore aujourd'hui pour François Hollande.
Et je retiendrai quand même que François Langlais a acté le fait que ça allait mieux, ce qui est... alors qu'il y a une croissance médiocre, comme il l'a dit.
Non, mais c'est indubitable. Je m'explique sur cette contradiction apparente.
Ce magnifique sourire qui irradie votre visage, c'est de vous dire ça va un tout petit peu mieux.
Je préfère que plutôt les années de décroissance que nous avions précédemment.
Quoi. Non, c'est voilà. Vrai. Mais encore une fois, tout dépend du point de comparaison qu'on prend. Par rapport à zéro, tout est mieux. Même le médiocre.
Alors, juste une dernière question, François Langlais. Est-ce que le chiffre faible de la croissance peut annoncer des chiffres meilleurs ? Parce que finalement, je le disais à 7h à la prise d'antenne, la croissance, c'est le travail, et d'une certaine façon, c'est la projection dans l'avenir, enfin, et le bonheur, parce qu'on a du boulot, on consomme un peu et on se porte mieux. Est-ce qu'on peut l'espérer ?
Si je peux laisse la parole à François, je prolonge juste ce que vous disiez, Yves Calvi, c'est que la croissance, c'est aussi le retour de l'idée de progrès, c'est pour ça aussi que je vous chicanais.
De projection dans l'avenir.
Voilà, et donc c'est le futur, c'est un avenir qui est, au fond, qui serait mieux, mais j'ai peur qu'on soit tellement dans le ressentiment qu'on ne se projette pas comme cela.
Michel Sapin a dit quelque chose d'important tout à l'heure, Elisabeth Martichoux, il a dit « il faut s'habituer à une croissance faible qui crée quand même des emplois ».
C'est vrai que le seuil de déclenchement de création d'emplois s'est abaissé. Pas forcément d'ailleurs pour de très bonnes raisons. C'est qu'on a abaissé la productivité générale de l'économie et que du coup, la job machine se déclenche probablement aux alentours de 1% de croissance par an. Mais le bénéfice collectif est moindre qu'à l'époque des années 80, par exemple. Mais si on regarde les chiffres du troisième trimestre, on ne voit pas de signes d'accélération possible. C'est-à-dire que la seule mécanique qui puisse l'enclencher, c'est celle de l'investissement des entreprises. Et celle-ci, eh bien, elle a au contraire rechuté. Donc, alors, il faut aussi prendre des distances par rapport à un indicateur qui n'est que trimestriel. Mm-hmm. On aura des données plus complètes dès qu'on aura une photographie de la zone euro plus large. C'est dans les heures qui viennent, avec notamment la croissance de l'Allemagne. Malheureusement, le contexte de la conjoncture de la zone euro semble se retourner un petit peu. Et du coup, on imagine mal de connaître une véritable accélération. On est en seconde, si vous voulez, pour être dans les métaphores automobiles, et on est en seconde depuis 18 mois. On n'est pas encore au moment où on se dit on passera la troisième.
Bon, ce qu'il faudrait éviter, c'est de retourner au point mort. Merci l'un et l'autre d'être venus débattre dans cette émission.